L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Alors, bonjour à tous. Nous revoilà dans les studios magnifiques d'FM+. Nous voilà accueillis et je suis en compagnie aujourd'hui d'une charmante personne dont je vais vous donner le nom et puis je lui laisserai la parole parce que c'est... elle a beaucoup à dire. Donc, je suis en compagnie de Myriam Soufane, qui est montpelliéraine, je pense, depuis quelques années et qui va se présenter à vous. Je pense que pouvoir dire d'abord que c'est une artiste déjà. Voilà. Et puis, en fait, je pense que voilà, elle va vous faire découvrir un petit peu ses multiples origines et multiples activités, etc., etc. Bonjour Myriam.
Eh ben, bonjour Marie-Claude.
Alors, grand plaisir de te recevoir sur cette antenne. Et je vais te demander de te présenter un petit peu. Alors, tu es jeune, mais peut-être d'où viens-tu, où vas-tu? Enfin, en tout cas, d'où tu viens déjà, tes origines.
Alors, moi, du coup, c'est Myriam Soufane. Oui. Je suis une artiste montpelliéraine depuis quelques années, qui vient de la Guinée-Conakry. Et j'ai des origines libanaises.
Voilà, parce que Myriam, elle est toute claire, blanche, avec des cheveux très, très raides. Voilà.
C'est vrai que quand on me voit, on ne pense pas du tout à la Guinée, mais voilà, ça fait toujours sympa, ouais, en fait, de le dire.
Tout à fait. En même temps, ça, moi, ça ne me surprend pas, parce que c'est vrai que pour quand même connaître pas mal l'Afrique de l'Ouest, on sait bien quand même que les Libanais, là-bas, il y en a énormément. Ah, oui. J'ai des amis, beaucoup d'amis libanais, sénégalais libanais, et on sait que voilà, les commerçants, hein, c'était quand même, c'est un peuple qui se déplace beaucoup et qui commerçait beaucoup, en tout cas dans le temps, et qui continue à commercer. Donc on n'est pas étonné de voir quand même quelqu'un d'origine libanaise au départ, mais en même temps guinéen comme toi.
Voilà. C'est vrai qu'on est un peu partout dans le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Et beaucoup en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest.
D'accord. Et là, donc, tu es venue à quelle occasion? En France ou déjà, ou sur le continent?
Alors moi, je suis venue juste après le bac. Je suis venue pour faire mes études.
Donc tu as grandi en Guinée?
Je suis née, j'ai grandi en Guinée. D'accord. Et mes parents sont d'origine libanaise, donc on est déjà parti au Liban pendant les vacances. Je connais plutôt bien le Liban, on va dire. Mmh. Et après, je suis venue directement pour faire mes études et j'ai fait mes études en architecture.
Ah oui, à Montpellier?
À Montpellier, à l'ANSAM, juste à côté.
Oui, je connais.
Et, oui. Et voilà, et après, on va dire que... Très vite, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, mais quand on vient de loin, on n'a pas trop le droit à l'échec. Ouais. Donc on continue et après on se dit, bah, je réussis la première année, la deuxième, la troisième. Et j'ai continué, j'ai eu mon diplôme. Et puis après, pendant le confinement, bah, comme tout le monde, j'avais besoin de m'occuper un peu. Et j'ai commencé à faire des petits dessins. Et tout est parti de là.
D'accord. Merci le confinement alors.
Ah merci le confinement, ah oui. Parce moi je l'ai bien vécu en tout cas.
En tout cas oui, moi je peux dire que c'est vrai qu'en ce moment actuellement autour de moi, quand on fait le bilan, ça a été très dur, très violent, très compliqué. Mais en même temps, il y a quand même certaines prises de conscience et certaines découvertes, et en tout cas aussi dans des projets personnels comme le tien, qui ont été plutôt positifs à ce moment-là. C'est-à-dire le fait d'arrêter, en fait ce que tu viens de nous expliquer, c'est que comme tout étranger, tout jeune qui vient de l'étranger, de loin, les parents se sacrifient, etc. C'est pour ça. Les études et tout, donc on est là, on n'a pas le droit à l'échec, on bosse, etc. et on se pose pas de questions, mais que finalement cet arrêt obligatoire en toi, en tout cas à toi et je pense à d'autres, t'a permis aussi de te réorienter.
Mais c'est exactement ça. Disons que c'était déjà assez difficile de trouver du boulot, et ensuite il y a eu le confinement et donc voilà, à force de faire des petits dessins, à la base c'était vraiment pour m'occuper, c'était pas du tout pour devenir artiste. Et d'ailleurs, comme je dis souvent, jamais je l'ai pensé. C'était pas du tout dans mes plans. Et puis ça s'est fait finalement tout seul. Et merci le confinement encore une fois, parce que j'ai finalement trouvé un chemin, on va dire.
D'accord. Et donc, la ville de Montpellier, le choix de la ville de Montpellier, c'était quoi finalement? C'était quoi qui a motivé? Quels événements ou quelles connaissances?
Honnêtement, c'était surtout par rapport au froid.
Au froid.
Au début, je voulais une ville un peu chaude.
Au climat.
Donc, c'est ça, au climat. Et donc, j'ai choisi Perpignan, Montpellier et je crois Toulouse. Parce que quand on s'inscrit à partir de Campus France, ben, on a trois choix. Et j'ai été acceptée à Perpignan, donc je suis allée à Perpignan. Et ensuite, je suis venue à Montpellier. Et donc,
oui,
c'était par rapport à ça.
Quand même plus vaste au niveau possibilités d'études, etc.
C'est exactement ça. Il n'y avait pas les domaines d'études que je voulais à Perpignan, parce que je m'étais inscrite en télécommunication et finalement, ce n'est pas ce que je voulais faire.
D'accord. Et enfin, un petit aparté, j'ai fini mes études à Toulouse, étant native d'ici. Et je peux dire quand même qu'il n'y a pas photo pour le climat. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont avoir 38 ou un truc comme ça.
Ah oui.
Nous, on a la proximité de la mer quand même. Là, c'est continental.
Ah non, on est bien. Alors, voilà. On est à 10 minutes.
Hein. Ah, moi, tous mes amis africains me disent « Oh, c'est bien Montpellier. Hein. C'est bon Montpellier. »
En plus,
bon.
C'est vrai que c'est une ville aussi cosmopolite. Enfin, moi, ce que j'adore aussi à Montpellier, c'est que y a toutes les cultures. Et on va en parler tout à l'heure. Moi, j'adore les cultures. Donc,
D'accord. Voilà, et donc justement, puisqu'on parle de culture, ton appartenance à toi, c'est essentiellement libanais. Tes deux parents sont libanais ?
Mes deux parents sont libanais. Après, j'ai un parent qui est né aussi et qui a grandi en Guinée. Donc, on va dire que nos origines sont libanaises, mais on est vraiment guinéens aussi de cœur. Donc, moi, je dis toujours, je suis guinéenne d'origine libanaise. Et on me dit souvent, c'est marrant parce que c'est pas tout le monde qui dit ça, mais parce que je me considère guinéenne pour de vrai.
Oui, c'est ça, c'est une vraie adaptation et une vraie adoption, quoi.
C'est ça.
D'accord. Et donc, tes parents vivent toujours là-bas ?
Toujours. Genre mes frères et tout.
Tu as des frères et sœurs ?
J'ai que des frères. Je suis la plus jeune, la seule fille.
La petite dernière.
C'est ça, exactement. Et j'essaie de retourner quand même une fois par an parce que, bon. Ouais, c'est un peu compliqué de pouvoir retourner beaucoup plus que ça. Mais au moins une fois par an, je retourne en Guinée, oui.
Mmh, d'accord, avec plaisir.
Ah bah oui, clairement.
D'accord. Et donc, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit de cette réorientation ?
J'ai été très surprise parce qu'au début, on est très free quand même dans ma famille. Mais j'ai été un peu surprise parce qu'au début, je me suis dit, bah, ils vont quand même, architecture, artiste. Artiste, généralement, ce n'est pas très pris au sérieux dans le sens où on a l'impression qu'on ne peut pas en vivre de l'art. Et j'ai été quand même surprise parce que quand j'ai commencé à faire de l'art, à la base, pour m'amuser, donc je postais un peu sur les réseaux. Et c'est ma mère carrément qui m'a dit un jour, ah ben c'est beau ce que tu fais, pourquoi tu ne fais pas des expositions ? Et quelque part, c'est rassurant et en même temps, c'est encourageant. Mmh. Et voilà, donc ils l'ont très bien pris finalement. Et là, aujourd'hui, bah, ils partagent partout sur leur réseau mon art et ils sont super fiers.
D'accord, c'est une bonne chose. Mais en fait, c'est vrai que quand on dit à ses parents qu'on veut être artiste, c'est tellement flou. En fait, ça renvoie vers de l'aléatoire, quoi, hein, parce qu'il faut être connu, il faut avoir un cadre, etc., etc. Et alors qu'un vrai diplôme, bien comme ton diplôme d'architecte, par exemple.
Surtout qu'on a une idée, enfin, quand on dit architecte, on dit bah, c'est noble, c'est un métier noble, c'est bien vu, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps, en fait.
Tu n'as jamais eu envie de retourner en Guinée ?
Si, j'ai déjà eu envie, mais honnêtement, je suis. Enfin, le mode de vie en France me convient, personnellement.
D'accord.
Je me sens aussi quelque part française. Mm-hmm. Ça fait plus de 10 ans que j'habite en France. Mm-hmm. Et presque je suis arrivée, j'avais 18 ans. Mm-hmm. Donc, je me sens vraiment française. Quand je pars en Guinée, au bout d'un moment, Montpellier me manque. Mm-hmm. J'ai mes amis, j'ai des gens que je considère aujourd'hui ici comme ma famille. Mm-hmm. Donc, quelque part, j'appartiens aussi à Montpellier. Mm-hmm. Donc.
Je dis ça parce que c'est vrai que, par exemple, enfin, moi, pour revenir au Burkina, que je connais plus particulièrement, je connais notamment un jeune homme qu'au début, j'avais un petit peu soutenu parce qu'il venait de faire ses études d'architecte, justement, à la même école que toi. Il s'est retrouvé d'ailleurs, par hasard, dans la même promotion que mon neveu, qu'un de mes neveux. Et il est retourné au pays. Et je sais que là, au pays, actuellement, c'est un bon architecte. Et je sais que, voilà, il y a de quoi faire aussi en architecture
dans niveau ces pays-là. Au niveau professionnel, c'est très bien. Moi, si je retourne en Guinée, je sais qu'il y a des marchés en architecture. Mais est-ce que j'ai envie que de travailler ? J'ai envie aussi de vivre.
D'accord.
Et moi, je choisis plutôt un peu ma liberté de vivre, en tout cas.
Oui, d'accord. Et donc là, actuellement, tes activités donc, sont artistiques essentiellement. Tu as un atelier. Tu fonctionnes comment ?
Alors, je peins chez moi. Essentiellement. Là, je cherche un atelier, d'ailleurs.
Tu peins chez toi ?
Oui, je peins pour la plupart du temps chez moi. Et actuellement, je fais de l'art, mais je fais aussi du graphisme. Il y a 4 ans de ça, j'ai créé mon entreprise en graphisme sérigraphie. Donc, j'ai créé une marque de t-shirts. Et donc, je fais de la sérigraphie, je fais tout ce qui est menu, carte de visite pour les entreprises, les restaurants. Mais je fais essentiellement de l'art. Donc, j'essaie de mettre toute mon énergie quand même dans les tableaux. Parce que ça plaît énormément, ça me plaît personnellement. C'est une sorte de thérapie aussi.
Et on peut visiter ça ? Il y a un atelier où on peut visiter ou bien
Oui, carrément, carrément. Mm-hmm. Alors c'est chez moi, mais c'est un atelier, on va dire, c'est un grand appartement atelier. Mm-hmm. Donc j'ai déjà fait des visites d'ailleurs chez moi, donc il n'y a pas de souci.
Et tu n'as jamais participé à des expositions collectives ou des choses comme ça? Tu n'as pas postulé?
Ah si, si, carrément, j'ai déjà exposé à l'Hôtel de Ville de Montpellier, à l'Opéra de Montpellier, à l'Arbre Blanc, enfin à la Réserve, la Galerie La Réserve. J'ai déjà fait des expositions collectives et individuelles aussi, solo.
Sur l'eau?
Oui, d'accord. Enfin, solo.
Solo, pardon. J'avais entendu sur l'eau parce que comme tu parlais de l'Hôtel de Ville et tout ça. Oui, oui, solo aussi, tu as fait des
D'ailleurs, en ce moment, j'ai une exposition collective dans une galerie en centre-ville, au 11 rue Sainte-Anne, pour ceux qui veulent voir.
11 rue Sainte-Anne.
C'est ça, qui s'appelle Alternative. Et il y a de très belles choses, on va dire.
C'est pas loin du carré Sainte-Anne.
C'est ça, c'est dans la même rue.
Voilà, c'est le quartier un peu artistique. Là.
Exactement.
D'accord. Dans ta culture à toi, d'origine, qu'est-ce que tu puises, par exemple, pour ton art? Est-ce qu'il y a des choses que tu puises dans ta culture d'origine, la culture de tes ancêtres ou dans tes origines à toi aussi africaines?
Plus africaines, on va dire, parce que ceux qui connaissent mon art savent que je fais pas mal de visages. Donc j'ai un style un peu particulier avec des lignes qui sont entrelacées. Je fais pour la plupart du temps des visages de chez moi, donc de l'Afrique de l'Ouest plus principalement. Mmh. Et ça revient tout seul. Alors on me pose souvent la question pourquoi? Pourquoi? Mais je ne sais pas, parce que ça se fait vraiment naturellement. C'est des visages qui me touchent personnellement. Et c'est des visages que j'ai connus toute ma vie. Mmh. Et je trouve qu'ils ont une beauté qui est différente et expressive surtout. Et encore une fois, je ne peux pas peindre tous les visages. Il y a des visages qui ne m'inspirent pas du tout. Mmh. Et moi, ces visages-là, ils m'inspirent énormément. Donc,
Et ça te vient comme ça? C'est des visages qui te reviennent ou c'est des
créations? Au début, je faisais pas mal. J'inventais, je créais carrément des visages. Il y a des visages qui me reviennent comme ça. Et aujourd'hui, pour aller plus vite, on va dire, je m'inspire pas mal de visages déjà existants que je modifie à ma façon ou que je redessine à ma façon. Mmh.
D'accord, donc il faudra que je vienne voir ça quand même.
Ah, mais avec plaisir.
Et puis bon, d'autres personnes aussi. Est-ce qu'il y a un site, un contact où on peut, si on a envie de regarder un petit peu ce que tu fais ou tes événements, est-ce que tu as un site ou une adresse consacrée ou un Facebook ou un truc comme ça?
C'est ça, j'allais dire sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur Facebook. Donc il suffit de taper Maï Soufane. En fait, c'est Maï, c'est pour Myriam, mais c'est devenu Maï Soufane.
M-A-Y.
Non, c'est M-Y.
Ah, Maï.
Voilà, en espace. Anglais, quoi. Voilà, espace Soufane. En fait, c'est, à la base, c'est Maï pour Myriam. C'est
M-Y.
R-I-A-M, mais c'est les gens qui ont commencé à dire Maï Soufane. Donc, c'est resté. Et finalement, c'est pas mal.
C'est vrai que ça évoque aussi pas mal de choses. Oui. Et donc, est-ce que dans tes cultures d'origine, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette passion que tu as pour le multiculturel, pour ces ouvertures, on en a parlé d'Omar Khayyam, on a parlé
de l'Iran.
De l'Iran, on a parlé. Voilà. Tu as des ascendances iraniennes aussi?
Alors, j'ai une tante qui est iranienne, qui est anglaise-iranienne.
Anglaise-iranienne.
Donc, je connais pas mal cette culture. Et comme je l'aime beaucoup, ma tante, je l'écoute énormément et j'apprends énormément avec. Et j'aime beaucoup la culture iranienne. On en parlait tout à l'heure de la désinformation un peu ici par rapport à l'Iran ou comment les gens perçoivent ce pays. C'est une grande civilisation, c'est pas juste un petit pays.
C'est plus de 5000 ans quand même.
C'est ça.
Les Zoroastriens, ils ont plus de 5000 ans.
Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui pensent que c'est juste voilà, des Iraniens, des Arabes. Enfin, c'est pas ça, c'est qu'en Iran, il y a pas mal de cultures. Il y a des Turcs, il y a des Kurdes, il y a des Iraniens, il y a des Arabes. Enfin, il y a un peu de tout. Et pour revenir au zoroastrisme, de base, les Iraniens, enfin les Perses, c'est les zoroastres. Donc c'est pas des musulmans de base.
Tout à fait, c'est pas des musulmans. C'est d'ailleurs, j'aime bien le rappeler ça parce que pour moi c'est important. Avec la Turquie, ce sont les deux pays qui se sont opposés. Quand l'islam a envahi un petit peu toute cette région du monde, ce sont les deux pays qui se sont opposés à l'arabe, à parler l'arabe.
Oui.
Donc les Iraniens ont gardé leur langue et je crois qu'il y a deux ou trois lettres supplémentaires dans l'alphabet.
C'est ça, il y en a trois, il me semble.
Voilà, ils ont gardé vraiment leur façon à eux. Et les Turcs, alors ça a été beaucoup plus radical, c'est Atatürk qui a fait venir des linguistes et qui a carrément refondu la langue turque, qui a fait une langue avec l'écriture romaine, du coup, et qui a abandonné l'écriture arabe, et qui a même, il paraît que même, ils ont retrouvé des mots du turc ancien, et ce qui fait que c'est une langue, là, qui est vraiment, où il y a tous les sons, ils sont, les E, les U, tout ce que nous disons, oui. Nous, les Français, ils sont capables. Et les Iraniens ont gardé aussi cette langue, et je dois dire que le farsi, si on écoute de l'arabe et du farsi, il n'y a pas photo. Il y a une mélodie dans le farsi qu'on ne trouve pas dans l'arabe.
Oui, il y a le P, par exemple, ouais. La lettre P qui est en plus, qu'il n'y a pas en arabe. Il y a d'autres lettres, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça ressemble. Ça ne ressemble pas du tout. Alors, il y a beaucoup de mots qui sont dérivés de l'arabe dans le farsi, mais c'est une langue complètement différente. Et d'ailleurs, c'est très beau. Moi, personnellement, je trouve que c'est très, très beau.
J'adore cette langue.
Et oui, moi aussi. Ouais. Moi aussi.
Et donc, il y a beaucoup de pays qui le parlent encore. Il y a beaucoup de pays qui fêtent Nowruz aussi. Hein, voilà, c'est vraiment encore, c'est quand même quelque chose qui a marqué.
Et heureusement, j'ai envie de dire.
Oui, heureusement que ça résiste, parce que voilà quoi, c'est vraiment. Et qu'est-ce que j'allais dire justement, alors après, puisqu'on parlait de ça, la part en toi et aussi dans ton art, dans ta vie, dans ton art, dans ton cœur, la part entre le Liban. Je pose la question souvent, j'ai beaucoup d'amis comme ça qui sont libanais mais africains.
Ah ben oui.
La part, c'est quoi? Comment tu fais la part?
Je suis partagée, j'ai mon cœur qui est divisé en deux. Enfin, moi j'aime beaucoup la culture africaine que j'ai reçue, de la Guinée surtout. Enfin, je précise parce que l'Afrique c'est un continent, on a tendance à généraliser, mais c'est une façon de parler. Et j'aime beaucoup aussi mes origines libanaises parce que j'ai été au Liban et j'ai vu comment c'était. Et les gens sont super sympas, super accueillants. C'est une très belle culture aussi. Et on a une bonne gastronomie.
Et ça, c'est connu
aussi. Ouais, ça, c'est connu. Et c'est un très, très beau pays, vraiment. Il faut le dire, c'est un pays magnifique. Et par rapport à la Guinée, moi, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Je serai toujours rattachée quand même à mes origines guinéennes. Et voilà, donc je suis un peu partagée, on va dire.
Alors, est-ce que tu parles un petit peu une langue de Guinée?
Oui, je parle un peu le soussou. Alors, je ne parle pas super bien, parce que la langue officielle en Guinée, c'est le français. Et naturellement, quand on est blanc, tout le monde nous parle en français. Mmh. Mais je parle un peu le soussou, oui. Mmh.
D'accord. Parce qu'il y a combien de langues là-bas?
Il y en a énormément, des dialectes, il y en a beaucoup. Mmh. Mais les trois qu'on parle le plus, donc il y a le soussou, il y a le poulard, donc le peul, et le malinké. Voilà.
D'accord, le malinké aussi.
C'est ça.
D'accord. Et les peuls là-bas, ils sont vus comment en Guinée?
Plutôt bien. Plutôt bien. Après, en Guinée, c'est pas très. C'est multi-ethnique, mais tout le monde vit ensemble, en fait. Mmh. C'est à part quand c'est politique, donc quand il y a des représentants de telle ou telle ethnie. Alors, on sent la différence, on l'entend, parce que forcément, chaque ethnie suit son représentant. Mais dans l'ensemble, tout le monde vit avec tout le monde et on n'en parle pas trop de tout ça, quoi.
D'accord. Tu connais Tierno Monenembo?
Non.
Ah, c'est un Guinéen qui a fui la Guinée à ce moment-là, en Guinée, sous le règne de l'ancien président. Qui a dû fuir le régime et il a écrit un livre, il est peul. Donc, alors, il a obtenu un prix français, le prix Renaudot, je ne sais pas quoi. À l'époque, il a écrit un livre qui s'appelle Le Roi de Kael, qui est tiré d'une histoire vraie, d'ailleurs, qui est remarquable, que j'ai lu. Et puis, il a écrit un bouquin comme ça sur les peuls, qu'il a appelé peul parce qu'il est peul lui-même.
D'accord.
Voilà, donc c'est très intéressant. Et il est professeur, je crois qu'il est professeur, il est en Bretagne, quoi. Professeur à l'université, dans une université bretonne. Okay. À moins qu'il soit déjà à la retraite, je ne sais pas.
Alors moi, le tout premier portrait que j'ai dessiné pendant le confinement, c'était une femme peul. Je l'ai baptisée femme peul.
Ah, oui.
Parce que c'est une très belle femme de profil, avec peuls, un joli afro.
Ils sont très fins, ils sont assez clairs.
Ils sont très fins, ils sont clairs de peau, ils ont une beauté qui est différente. On dirait presque des métissés, en fait, quand on les voit. Et voilà.
Et le roi de Kael, justement, c'est l'histoire d'un fou qui vivait à Marseille, je crois, qui s'est toqué de faire construire un genre d'usine là-bas et qui doit négocier pendant des jours et des jours et des jours et des jours avec des peuls. Et c'est là où Tierno Monenembo, qui lui-même est peul, s'amuse beaucoup avec le caractère peul. Okay. Voilà, donc. Bon, ce que je vais proposer, c'est une petite pause musicale quand même, hein,
okay.
Pour histoire de se récupérer un peu, et puis on va continuer. Donc, tu as choisi, tu nous dis
J'ai choisi Taïk, c'est un peu le moment actuel, et voilà, et j'aime bien Taïk.
Voilà, Taïk, elle aime bien Taïk, et c'est le moment actuel. À tout à l'heure.
Ah, sans aucun détour. Donc si tu m'aimes, fais-le pour toujours. Elles m'ont tout pris sans aucun retour. Donc si tu m'aimes, fais-le pour toujours. Why you love? Je n'ai jamais été naïf, j'ai toujours vérifié avant de donner. Alors dis-moi qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai encore si mal. Tu as promis de me guérir, c'est le dernier essai, j'attends ton signal. Oh, oh, adieu, 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 oh, adieu, adieu. Où tout est déjà écrit pour moi, je suis béni. Oh, adieu, 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 oh, adieu, adieu. C'est toi qui m'as trouvé. Prends soin de moi. T'as trouvé mon cœur sans aucun détour. Donc si tu m'aimes, fais-le pour toujours. Elles m'ont tout pris sans aucun retour. Donc si tu m'aimes, fais-le pour toujours. Why you?
Et nous revoilà dans les studios. Je suis toujours en compagnie de Myriam Soufane, donc qui nous a un peu transporté dans sa vie. On est parti de Montpellier, on est allé en Guinée-Conakry, puis là on a fait une petite incursion en Iran. Nous sommes repassés par la Guinée et nous revoilà à Montpellier, donc et toujours en compagnie de notre artiste. Donc Myriam, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de tes réalisations artistiques, parce que je crois que tu fais des choses aussi un peu originales qui ont à voir aussi avec la culture ici, d'ici.
Ah oui, carrément.
Tu nous en parles ?
Alors, je dirais ici et d'ailleurs aussi, parce que je fais des peintures avec du vin. Voilà, mm-hmm. C'est un peu bizarre de dire ça, mais pour la plupart du temps, les artistes qui font de la peinture avec le vin, ils l'utilisent un peu comme de l'aquarelle pour mm-hmm. faire les ombrages mm-hmm. ou les remplissages. Moi, je l'utilise différemment. Moi, je crée des taches sur les visages, mm-hmm. des taches de vin. Et ce que j'aime avec le vin... Alors, on me demande tout le temps pourquoi le vin. Non seulement c'est la culture d'ici, mais pour revenir au Liban aussi, ils font du vin aussi mm-hmm. au Liban.
Ils ont du vin,
c'est quelque chose qui est un peu ancré aussi dans ma culture. Mm-hmm. Et pourquoi le vin ? Parce que le vin, il s'oxyde avec le temps. Mm-hmm. Donc, quand je peins une toile avec le vin, elle n'arrête pas de changer de couleur avec mm-hmm. le temps. Donc, mm-hmm. au début, elle est un peu marron, après, elle est jaunâtre, après, elle est orangée. Et moi, j'appelle ça de l'art vivant. J'ai l'impression mm-hmm. que la toile, elle est vivante et qu'elle n'arrête mm-hmm. jamais de changer avec le temps. Mmh. Et je trouve ça très beau.
Alors moi qui suis née dans ce pays de vin et qui aime bien le vin, c'est vrai que le vin pour moi c'est toujours, c'est un peu sacralisé, c'est un peu sacré, c'est le partage, c'est vraiment, c'est tout un, souvent un rituel. D'ailleurs, bon, c'est pas pour rien qu'on partage dans les messes catholiques, on partage oui. le pain et le vin, mais il y a beaucoup de cultures où il y a du vin ou de l'alcool de toute façon dans les consécrations religieuses, quoi. Et donc ça ne peut que me rappeler ravir. Et c'est vrai que dans le vin, il y a ce côté, comme tu dis, vivant. Pour moi, je dis souvent que pour moi, le vin, c'est le sang de la terre. C'est-à-dire que quand on voit un cep de vigne, comment c'est tordu, comment ça va chercher ses racines, comment après ça se produit et comment c'est vraiment extraordinaire. En plus, nous, on finit avec des grillades aux sarments de vigne qui donnent un goût extraordinaire aussi à la grillade, etc. Donc, effectivement, quand tu me dis ça, je trouve que c'est une idée très originale. Et en effet, j'ai acheté du vin, par exemple, en Turquie, dans un petit village tout au perché de Turquie. Il y a du vin en Turquie, il y a du vin au Liban, il y avait du vin en Iran avant qu'il y ait ce foutu régime qui interdise tout, et avant aussi. Donc, je veux dire, il y a des régions, et je pense d'ailleurs que la vigne est originaire de ces régions-là.
Plutôt. Oui, il me semble que c'est plutôt de ces régions-là, si on revient à l'histoire. Comme on disait, c'est quelque chose qui a une grande histoire. En fait, quand on parle du vin, on peut parler pendant des jours et des jours. Enfin, c'est pas juste une boisson, c'est très spirituel, c'est très philosophique.
Tout à fait. Il y a vraiment quelque chose de...
Et en plus, selon le cépage, j'ai envie de dire, la couleur, elle change. Mmh. Alors, quand le vin, il est très, très jeune et que je fais de la peinture avec, c'est un peu violacé. Mmh. Alors que quand le vin, il est un peu vieux, c'est plus orangé. Donc
Et c'est vrai que dans ce rituel que et tu viens d'en parler exactement avec le côté visuel, c'est que normalement quand on déguste un vin, on le sert dans un verre transparent, on commence à le faire tourner un petit peu, à l'aérer, on a vraiment toute cette odeur, enfin il y a vraiment une senteur spécifique, on regarde sa couleur, enfin vraiment, et puis avant de le mettre dans la bouche et avant encore après de le déguster, donc il y a tout ce côté là. C'est vrai que le côté visuel, effectivement, c'est une bonne idée que tu as eue.
Eh ben, c'est venu comme ça. J'avais un petit fond de vin et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester.
Et au lieu de le siffler.
Exactement. Et finalement, ça donne super bien et ça plaît énormément. Je ne m'y attendais pas du tout, mais ça plaît énormément, oui.
D'accord. Et donc, au plan artistique, sinon encore, tes projets, c'est quoi ?
Alors là, je travaille sur une exposition. Bah, déjà, le 26 juin, j'ai une exposition à Narbonne, dans une galerie qui s'appelle Atrium Galerie, pour ceux qui aimeraient venir, les gens de Narbonne ou même de Montpellier. Donc on peut avoir toutes les informations sur mes réseaux sociaux. Et ensuite, je suis en train de travailler sur une exposition en lien avec le vin au domaine de Noilly-Pratte. Alors, ça sera pour octobre.
Ah, Noilly-Pratte.
Oh, et oui, ouais. À Marseillan. Donc l'idée, ça serait de peindre avec du Noilly-Pratte. Et évidemment, il y aura aussi d'autres toiles à côté, de l'acrylique, de l'aquarelle, mais principalement du Noilly-Pratte.
Ah, ça va être intéressant.
Ah oui, ça, c'est une très belle expérience même.
Il faudra nous l'envoyer, qu'on puisse l'annoncer à ce moment-là aussi. Ah,
mais carrément, on verra ça.
D'accord. Et donc là, c'est pour le mois de...
Octobre.
D'accord. Octobre.
Et aussi, je suis en train de voir aussi... j'ai été contactée par rapport à la Biennale, parce qu'il y a la Biennale... Euro-Africa qui revient en octobre. Et donc, ce n'est pas encore signé, mais je pense qu'il y aura de belles collaborations qui arrivent.
Du style ?
Du style résidence artistique, exposition, voire même conférence à voir. Mais pour l'instant, on est plus sur une résidence artistique.
D'accord, une résidence, c'est pas mal. Donc ça, c'est pour la Biennale, au mois d'octobre également. Le mois d'octobre va être chaud aussi.
Hein. Ah oui, il va être bien chargé.
Il va être bien chargé. Donc quand même, c'est beaucoup de projets. Voilà. Et puis sinon, pour en revenir à cette aspiration que tu as au multiculturalisme, etc., tes projets un peu de déplacement, de voyage, de visite, de réception d'étrangers, etc., c'est où ? C'est quoi ?
Moi, j'aime beaucoup voyager. Donc pour ceux qui me connaissent, je travaille pour ça, en fait. Je suis tout le temps un peu par-ci, par-là. Et là, les prochains projets, je suis en train de voir. J'ai travaillé déjà avec Amsterdam deux fois. Et il y aura peut-être un projet cette année encore avec Amsterdam. Et sinon, je suis en train de voir pourquoi pas pour faire une première exposition en Guinée, ce que je n'ai jamais fait encore. Et si ça se fait, ça sera au Centre culturel français, franco-guinéen. Voilà. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et après, je me laisse emporter à voir aussi peut-être Paris bientôt. Donc, je me laisse... Je laisse les choses se faire toutes seules.
D'accord. Un peu de façon un peu orientale ou même africaine. C'est vrai que laisser le cours des choses, c'est moins occidental, moins européen que...
Un peu les deux. J'avoue que pendant un moment, j'ai fait des portraits. Et aujourd'hui, je me pose la question. Je me dis, et après, je n'ai pas envie de faire que des portraits. Donc là, j'essaie de travailler un peu sur mes racines. Donc quand on parle Guinée, Liban, comment faire pour peut-être mixer les deux ou voire même raconter carrément mon histoire à travers l'étoile. Donc là, je vais partir sur deux visages au lieu qu'un seul et il y aura pas mal d'éléments qui vont faire appel à mes origines. Quand j'aurai en tout cas une grande quantité, ben, j'aimerais bien faire une exposition que j'appellerai Racine.
Ah oui, c'est intéressant ça.
Donc là, je pense beaucoup à ça en ce moment.
Ah oui, ça c'est. Alors là, c'est extraordinaire quand même. Voilà, ce fait. Alors, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup d'Africains ou de gens qui ont à voir avec l'Afrique, mais. Et c'est vrai qu'à un moment, ma question c'est toujours ça, c'est toujours ce que je t'ai posé tout à l'heure. Quelle part le Liban, quelle part l'Afrique, etc. Et quelle part après le vécu qu'on peut avoir. Alors, tu m'as déjà répondu, puisque tu m'as dit que toi, finalement, Montpellier, tu t'y plaisais, etc. Et que, carrément. Voilà, ça t'empêche pas de retourner vers tes racines, etc. Mais qu'en même temps, pour toi, c'est la solution, que c'est là où tu te sens bien pour l'instant, en tout cas.
Pour l'instant, oui, je me sens
et
bien.
Et alors, aussi. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même ce questionnement de se dire, d'aller vers ses racines, mais vraiment de creuser, quoi.
Parce que le but, c'est aussi de raconter mon histoire. Moi, j'adore les cultures. Je suis passionnée par les cultures. Et je me dis, j'ai la chance d'être issue de plusieurs cultures. Alors, j'aimerais bien raconter ça ici. Et quand je pars en Guinée ou au Liban, bah, raconter ce qui se passe ici en France. Donc un peu faire voyager, on va dire, ces deux cultures, ces trois cultures même.
Ces trois cultures. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, je pense qu'on est tous multiculturels, sauf que souvent, on ne se pose pas la question. Voilà, on est ici, on est à l'épaisseur. Voilà, quand on regarde dans ses racines, dans son histoire, souvent, même, ça vient de loin.
Je pense aussi.
Oui. Ça vient de loin, mais on le sait pas. Mais bon, il y a qu'à faire maintenant quand on fait ces tests ADN, là, je sais pas quoi, ces recherches.
Ah oui, on n'est jamais issu.
Voilà, on se rend compte qu'en fait, on vient d'assez loin. Il y a des origines un petit peu de partout. Sauf que là, chez toi, c'est rassemblé là, autour de toi, dans ton histoire à toi, et que c'est une possibilité que tu te donnes de réunir tout ça et d'en faire quelque chose de plus concret, un témoignage plus vivant.
Mais carrément, et comme on disait, les cultures, enfin, on est un peu tous issus de différentes cultures. C'est vrai qu'il s'avère que moi, j'ai des origines, je suis née en Guinée, mais il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'avoir des origines, il suffit de voyager un peu et de s'ouvrir à d'autres cultures et pour pouvoir en tout cas se retrouver dans certaines sociétés, etc. Donc moi, par exemple, je ne suis pas née en France, je n'ai pas grandi en France, quoique ça fait un peu plus de 10 ans, donc j'estime que quelque part, j'ai quand même grandi ici. Mais je me sens aussi française. Donc on n'a pas besoin finalement d'avoir que des origines, on peut s'approprier ou se sentir de telle culture sans forcément être né dedans.
Et tes parents, ils connaissent la France ?
Non, ils sont jamais venus.
Ils sont jamais venus ?
Non, jamais. C'est moi qui pars toujours.
C'est toi qui pars toujours. Mais tu reviens.
Mais je reviens.
C'est ça qui est important pour eux.
C'est plus simple, en fait. Moi, je suis seule, je n'ai pas de famille directe en France, mais pas du tout. Alors, c'est plus simple pour moi d'y aller que de venir tous ensemble. Donc,
ça me fait penser à une... J'ai une amie qui est sénégalaise, mais libanaise, hein, évidemment, et qui avait galéré ici. C'était au temps de Sarkozy pour ses papiers, etc. Donc, elle s'est exilée au Québec, où je suis allée la voir. Et elle me dit toujours que s'il y a un endroit où elle voudrait prendre sa retraite, c'est Montpellier. Parce qu'elle est passée par ici, par l'université et tout, avant qu'il y ait cet embrouille à mini avec ses papiers. Et qu'elle aussi, quelque part, elle se plaît énormément au Québec, hein, à Montréal, tout ça. Elle a un bon job et tout, on lui a réglé tous ses problèmes de papier. Mais elle dit toujours ça, elle dit toujours. Et je pense qu'effectivement, à un moment, peut-être qu'il y a un endroit où, à ce moment-là, c'est vrai que si on a cette ouverture de se dire qu'on peut être de plusieurs cultures et qu'on peut être bien un peu partout, on peut avoir une préférence aussi, on peut avoir un moment, une façon d'être, de vivre quelque part où on se sent plus en accord.
Bien sûr, mais comme elle dit, enfin moi je suis d'accord parce qu'on a l'impression que finalement Montpellier regroupe toutes ces cultures dans une ville. On a tout dans une seule ville. Si je pars en Guinée, c'est vraiment très guinéen. Si je pars au Liban, c'est très libanais. Alors qu'à Montpellier, j'ai un peu tout. Donc moi je suis plutôt d'accord.
Merci de me rassurer, parce que Montpellier, c'est ma ville natale, et je m'y plais, j'y suis partie, et je suis revenue à cause de ça aussi, ou grâce à ça, c'est-à-dire ce multiculturalisme, cet accueil de l'étranger, cet accueil du différent. On Bien a sûr. Appuyé les religions, les maranes, les juifs chassés d'Espagne par l'Inquisition, les protestants ont été protégés relativement aussi, enfin bref, on a un peu tout ça, on a eu beaucoup à l'époque de chefs d'État étrangers aussi, qui sont passés par ici, etc. Donc, effectivement, c'est bien que ça continue.
Ah oui, c'est bien que
l'ouverture à l'international de la ville soit importante. Alors, donc, il y aura la Biennale. Alors, avant, tu as tes expositions. Donc.
Voilà, donc le 26 à Narbonne et actuellement à Alternative, donc 11 rue Sainte-Anne, c'est encore en cours.
Oui, 11 rue Sainte-Anne, voilà, je vais essayer d'aller faire un saut.
C'est ouvert du mercredi au samedi, donc pas les lundis, mardis. Et puis, peut-être qu'il y aura quelque chose aussi en juillet, donc à voir.
Oui, et puis peut-être après, peut-être que tu pourrais voir après du côté du Carré Sainte-Anne carrément.
Ah ben pourquoi carrément, ça, ouais. ça serait génial.
Oui, ça serait bien aussi. Hein.
C'est un très très beau lieu avec une grande histoire.
Voilà, grande histoire. Moi j'ai connu, petite, j'ai connu l'église Sainte-Anne.
Et oui.
Ma
moi je l'ai connue avant la fermeture.
Oui, tu l'as connue aussi.
Oui, parce que quand je suis arrivée, elle était encore ouverte et il y avait déjà des expos et je n'étais pas du tout dans l'optique d'être artiste. Mais j'ai déjà été en plus dans des expos au Carré Sainte-Anne. Et là, je crois qu'il y aura JR jusque décembre, il me semble. Et ben, ça serait génial de pouvoir exposer là.
D'accord. Bon, donc, pour rappeler ton site, tes sites, enfin, là où on peut te contacter,
donc, c'est... Facebook ou Instagram, met Myriam Soufan ou My Soufan. Donc, MY Soufan.
Soufan.
C'est ça.
Voilà. D'accord, pour avoir un peu ton programme. De toute façon, Myriam, je sens qu'on se reverra.
Avec grand plaisir. En tout cas aussi
dans ces studios accueillants de FM+, qui nous accueillent régulièrement. Je vais remercier chaleureusement William pour la technique.
Merci.
Et donc,
William.
C'est moi qui choisis le morceau de départ. Et j'ai choisi, ça ne va pas vous étonner, parce que c'est quelque chose qui va bien aussi à Myriam et qui me va très bien à moi, Né quelque part.
Ah, voilà. C'est génial. Merci beaucoup.
Au revoir.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.